suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Il y a 3 ans, le 13 janvier 2018, Bernard Lahire était, avec Marie Dariussec, l'invité de la suite dans les idées pour parler de l'ouvrage aussi volumineux qu'original qu'il consacrait aux rêves. Le même jour, Gérard, un auditeur ayant entendu l'émission, écrivait via son éditeur au sociologue pour proposer de lui confier un impressionnant corpus de près de 1000 rêves qu'il avait pris soin de noter au réveil depuis plusieurs dizaines d'années. Cet ensemble de rêves, analysés au regard de la trajectoire biographique de Gérard, fait l'objet du dernier chapitre d'un second volume que Bernard Lahire consacre aux productions oniriques. Des productions qu'il invite d'ailleurs à considérer comme des formes, parmi d'autres, de l'expression humaine. Bernard Lahire est le premier invité de 2021 de la suite dans les idées et il sera vite rejoint en seconde partie par la réalisatrice Sophie Bruno, auteure du documentaire « Rêver sous le capitalisme » qu'on peut voir actuellement ou revoir sur arte.tv. Avant de les retrouver l'un puis les deux ensemble, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année et de très beaux rêves. Après tout, pourquoi pas de très beaux rêves? La dimension esthétique des rêves n'est pas négligeable. Elle est d'ailleurs prise en compte par les rêveurs, parfois, qui veulent s'en servir comme matériaux artistiques à venir, notamment de la poésie. C'est le cas de l'un des rêveurs qu'a rencontré Bernard Lahire. Ils sont huit rêveurs qui constituent autant de chapitres de ce très gros livre, 1200 pages. Bonjour Bernard Lahire.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et comme je le disais, vous publiez en cette rentrée de janvier 2021, le livre sort dans quelques jours aux éditions La Découverte, le volume 2 de ce que vous avez appelé au fond, en reprenant le titre du premier ouvrage, l'interprétation sociologique des rêves. Celui-ci s'appelle La part rêvée et la part, vous la faites belle à ces rêveurs, 8 d'entre eux auxquels vous consacrez de longs chapitres. On se dit au fond en vous lisant que chacun aurait pu faire l'objet d'un livre à part entière, d'une sorte de monographie de rêveurs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 8 petits livres à l'intérieur d'un gros livre. Mais l'intérêt, c'est d'avoir effectivement sur des cas assez différents, 4 hommes, 4 femmes, la preuve que les outils que j'avais apportés dans le premier volume parviennent à rendre raison de cette production qui est quand même très très spéciale, très bizarre, avec beaucoup de choses incompréhensibles en première lecture.
Alors ces outils, vous les rappelez dans un chapitre préliminaire, vous faites le point, non seulement le point sur tous ces apports assez considérables que vous aviez réunis pour le premier volume. Je dis apport parce que vous étiez dans une démarche, et vous êtes toujours dans une démarche qu'on dit cumulative pour les sciences sociales, c'est-à-dire que vous vous êtes servi de oui. Tout ce qui a pu être écrit sur les rêves par de nombreux auteurs, non pas pour leur rendre nécessairement hommage de façon un peu académique, parfois pour les critiquer, parfois pour les réfuter, mais c'est comme ça qu'on fait de la science après tout. Alors, dans ce premier chapitre, vous revenez sur ces acquis qui vous ont permis ensuite de travailler sur le matériau. Peut-être on peut en rappeler quelques-uns, parce que, et notamment ce qui permet de prendre le rêve tout simplement comme un objet sociologique, là où certains le cantonnent à sa dimension intime, psychologique, rétive à toute forme d'objectivation sociologique au fond.
Oui, c'est vrai que quand on dit rêve, on pense pas du tout sociologie au premier abord. On a une production qui est individuel, qui est psychique. Donc immédiatement, on imagine que les sciences de la psychologie ou du psychisme sont tout à fait indiquées pour travailler là-dessus. Les sciences sociales sont des sciences longtemps considérées comme des sciences des collectifs, des groupes ou des institutions. Ce sont en plus des productions imaginaires qui sont très bizarres. Donc, beaucoup de gens sont un peu découragés face à ce genre de production. Et puis, il y a surtout la peur de la psychanalyse, que j'ai eue moi-même pendant très longtemps. Et il a fallu beaucoup lire pour arriver justement à dépasser cette peur première. Et en fait, si on reconstitue un petit peu le parcours, non seulement de Freud, parce que lui-même a été un grand synthétiseur, il a synthétisé un grand nombre de travaux de savants qui avaient travaillé sur les rêves. Il en était d'ailleurs épuisé, il le dit lui-même au début de l'interprétation des rêves. Et puis, il a synthétisé quelque chose. Et depuis, il y a plus de 100 ans de travaux sur les rêves produits par des linguistes, par des psychologues cognitivistes, par des sociologues aussi, très peu, mais il y en a quelques-uns, des historiens, etc., etc. Et c'est tout ce travail-là qui m'a permis de construire un modèle qui est effectivement un modèle qui intègre les principaux apports de ces différentes sciences dans une science sociale, parce que moi, je suis sociologue, mais je parle de plus en plus de la science sociale. C'est une démarche très très générale. Voilà.
Alors vous avez mis au point une méthode pour travailler sur ces cas. Je rappelle, il y en a 8 que vous avez retenus qui figurent dans le livre, en essayant d'appliquer à chacun un protocole au fond le plus identique possible. Ça n'a pas été toujours possible, mais quand même, quel était-il comme c'est quand même une enquête qui se caractérise par son temps long. Vous avez à la fois récupéré des corpus de rêves, mais vous avez aussi mené de très longs entretiens. On parle aujourd'hui d'entretiens souvent dans les enquêtes sociologiques pour faire référence à des conversations qui durent une demi-heure ou une heure. Là, quand on parle d'entretiens ou de séries d'entretiens, on arrive facilement à 20, 30, 40 heures parfois.
Ah ben je suis arrivé même jusqu'à 61 heures pour une enquêtée, une rêveuse qui m'a confié des rêves, qui était sans doute la plus assidue dans l'écriture de ses rêves pendant le temps de l'enquête, à peu près 2 ans. Oui, c'est un gros travail, mais en même temps, c'est la seule manière de parvenir à repérer finalement des récurrences. C'est presque une aide d'avoir beaucoup de travail en fait et beaucoup de matériaux. Je ne sais pas comment on pouvait faire Freud avec parfois un seul rêve d'un patient ou d'une patiente.
Ou les siens.
Alors là, il y a d'autres problèmes qui se posent en plus quand c'est ses propres rêves. Mais je pense que les sciences sociales nécessitent des méthodes, les sciences humaines plus généralement. Et moi, j'ai procédé d'une façon tout à fait objective. Enfin, j'ai essayé de systématiser le type de démarche que je mettais en œuvre en enregistrant nos discussions autour des rêves qui étaient notés avec un certain nombre de précisions sur le contexte du rêve, sur l'émotion ressentie pendant le rêve ou les émotions ressenties pendant le rêve, sur des choses qui s'étaient passées la veille ou les jours précédant le rêve, et évidemment avec toute une partie de biographie sur le parcours familial, scolaire, professionnel, etc. de mes enquêtés. Au bout d'un moment, effectivement, il faut avoir, si vous voulez, en fait, c'est comme un puzzle. C'est-à-dire le rêve donne un certain nombre d'éléments incompréhensibles si on n'a que ces éléments-là. Et Freud avait raison de dire que sans les associations liées au rêve, on ne fait pas grand-chose. Simplement que lui pensait que c'était la censure qui était à l'origine des difficultés de compréhension du rêve, puisque c'est une manière de coder ou de chiffrer le rêve. Moi, je pense que c'est une affaire d'implicite. Et s'il y a un endroit où il y a peu de censure, c'est bien l'espace onirique. Donc en fait, on a quelque chose qui est de l'ordre d'éléments d'un puzzle, et il faut rajouter les autres éléments pour commencer à voir l'image, en fait, faire apparaître des images. Et ces images, ce sont les problèmes que, enfin, qui hantent les gens. Pendant très longtemps, alors je peux le dire sur 2 ans parfois, sur 1 an, et parfois sur plus de 30 ans pour le cas de Gérard qui m'a confié des rêves qu'il tenait depuis, enfin qu'il notait depuis très très longtemps.
Alors à la différence de Freud, vous le disiez, vous pensez qu'il n'y a pas véritablement de censure, mais de l'implicite. Et à sa différence aussi, vous n'insistez pas sur l'enfance, sur la prime socialisation, pour vous porter une attention très grande également à l'environnement temporel immédiat, à ce qui, aux jours qui ont précédé le rêve, par exemple, que vous mettez en relation, et c'est ce travail de décodage qui est peut-être spécifique à la sociologie, que vous mettez en relation avec une trajectoire sociale.
Oui, c'est une trajectoire d'expérience. Au fond, moi, je vois la démarche de Freud comme un sociologue qui se serait arrêté à l'étude de la famille, de la petite enfance et d'une dimension particulière de ce qui se passe à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner les pulsions sexuelles, quelque chose autour de ça. Voilà, bon, c'est évidemment fondamental, et en même temps, la vie des individus ne s'arrête pas à la famille.
Ce n'est pas la seule institution en particulier, parce qu'on s'aperçoit que le rôle des institutions est considérable.
Absolument, absolument. Et de la place qu'on occupe dans les institutions, d'une place qui est plus ou moins heureuse d'une certaine façon, et du coup, y a des places qui se jouent aussi dans l'institution scolaire, dans l'institution du travail, dans des institutions parfois religieuses, sportives, etc. Peu importe, les gens ont des parcours dans des groupes, dans des institutions, et les problèmes qui émergent chaque nuit sont des problèmes qui ont un rapport direct avec les expériences qu'ils font dans ces groupes et ces institutions. Si on ne reconstitue pas ces groupes ou ces institutions et les expériences qui sont faites par les rêveurs à l'intérieur de ces institutions ou de ces groupes, on ne comprend pas en fait les enjeux des rêves qu'ils font.
La notion de problème est centrale. S'il y a un invariant, c'est peut-être d'abord et avant tout celui-là. Vous semblez privilégier le fait que, ou constater le fait que les rêves tournent autour de problèmes, qu'ils sont des formes de mise en problème, au fond, de situations éprouvées, rencontrées par les individus, aussi codées soit ces mises en récit.
Oui, c'est en fait. Alors c'est vraiment un constat, parce que si les gens ne rêvaient que de choses ordinaires, banales et sans enjeu particulier ou sans malheur particulier associé à ça, moi je le noterais, je l'enregistrerais comme en tant que chercheur. Et il se trouve que l'étude montre que dans les rêves, ce qui est privilégié, ce sont un certain nombre de problèmes qui ne cessent de hanter, c'est des problèmes irrésolus. Et au fond, chaque rêve est une manière de revenir sur ce problème ou ce groupe de problèmes, parce que c'est ce que j'appelle une problématique existentielle, qui est souvent faite d'un ensemble de problèmes qui se sont agglutinés les uns autour des autres. Et c'est cet ensemble qui, généralement, réapparaît rêve après rêve. Et voilà, et ce sont effectivement des problèmes irrésolus. Donc c'est comme si c'était un cinéaste qui refaisait le même film, mais avec des angles de vue différents, avec des manières de procéder différentes, des métaphores différentes, etc., etc.
Comme si c'était des cinéastes qui refaisaient le même film. Ça nous renvoie à une autre façon que vous avez d'aborder ce matériau, Bernard Lahir. Vous n'hésitez pas à parler de formes d'expression à propos des rêves, de considérer les rêves non pas comme des discours, mais comme des formes expressives propres à l'espèce humaine. Ça, c'est un invariant anthropologique.
Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que il faut que les chercheurs en sciences sociales se dotent d'une théorie très très générale de l'expression. Alors, elle existe déjà, elle a déjà été formulée par des auteurs comme Meyerson, et j'ai essayé de m'inscrire dans cette tradition-là pour montrer qu'au fond, que ce soit à travers le jeu, chez l'enfant ou chez l'adulte d'ailleurs, que ce soit à travers des formes artistiques, d'expression artistique, ou même des styles de comportement dans la vie scolaire, de travail, etc. L'homme passe son temps à exprimer un certain nombre de choses. Et au fond, le rêve n'est qu'un objet particulier, qu'une forme d'expression particulière, qu'on ne peut, à mon avis, réellement comprendre que si on situe cette production dans un continuum expressif. C'est-à-dire c'est une forme très particulière d'expression liée au fait qu'on est en train de dormir, qu'il y a un temps du sommeil où le cerveau ne fonctionne plus avec une conscience volontaire qui contrôle ce qui se produit, avec un isolement lié au fait qu'on dort, voilà, et qu'on n'est pas sollicité par le monde extérieur. C'est bien ça aussi qui fait obstacle pour beaucoup de sociologues. C'est l'idée qu'on n'est pas en interaction avec d'autres, qu'on n'est pas dans des groupes, etc. Et pourtant, c'est toujours ce monde social qui vient nous hanter à l'intérieur des rêves.
Les rêves, ce sont aussi des récits. Je repensais en vous lisant un livre lu récemment pour lequel son auteur Jean-Marie Schaeffer était venu en parler dans cette émission et qui consacrait un chapitre aux rêves dans un livre sur la présence absolument centrale des récits dans les mécanismes cérébraux, un livre d'un philosophe, mais d'un philosophe qui lit aussi beaucoup de sciences cognitives. Et au fond, cette narrativité est frappante. Et je me suis demandé, en vous lisant Bernard Lahire, si, au fond, il n'y avait pas matière à creuser les relations complexes qu'entretiennent les rêves avec les autres types de fiction dont nous sommes nourris en permanence. C'est-à-dire que il faudrait, mais en fait on voit bien qu'avec ce livre vous ouvrez de vastes sentiers de recherche, il faudrait travailler sur la façon dont nos rêves sont structurés par des cadres narratifs qui nous sont offerts par les fictions auxquelles nous sommes exposés dans les périodes de non-sommeil.
Ben, alors ça c'est quelque chose que j'ai pu voir à travers les rêves, puisque très très spontanément les rêveurs faisaient des rêves inspirés de séquences narratives liées à des films la plupart du temps, ou des séries même. Je pense que c'est les séries qui arrivent en premier chez des rêveurs assez jeunes, donc des films, parfois des bandes dessinées, voilà, c'est des productions imaginaires qui sont mobilisées parce que au fond, quand il voit ces séries ou ces narrations, qu'elles soient filmées ou écrites, il se projette dans les personnages, dans les situations, et en fait, ça fait écho à des expériences. Or, il y a un certain nombre d'expériences qui font problème pour eux. Quand ils regardent la série, eh bien, ces problèmes sont mobilisés ou actualisés par le fait de voir cette série télévisée, et du coup, ils reprennent des schémas narratifs de la série avec des personnages de la série ou du film pour rêver des choses tout à fait personnelles, intimes. Donc effectivement, mais Freud l'avait noté, sauf qu'à l'époque c'était plutôt du théâtre par exemple ou de la littérature. Et puis il avait affaire à des rêveurs ou des rêveuses qui étaient de la bourgeoisie et qui sortaient au théâtre, lisaient de la littérature. Il n'y avait pas la télévision, etc. Donc voilà, on rêve avec aussi les narrations de notre temps.
Mais est-ce que ça pose pas la question au fond du rapport à la fiction de ces rêves? Parce que en vous lisant, on s'aperçoit que vous prenez ces rêves quand même très très au sérieux, comme une forme d'accès à une sorte de vérité personnelle ou de vérité sociale. Alors même qu'on pourrait se poser la question au fond de ce rapport à la vérité des rêves, qui sont eux-mêmes traversés, travaillés par ces fictions auxquelles on est exposé en permanence. Et ce d'autant plus que ce sont des récits qu'on fabrique alors même qu'on n'est pas conscient.
Oui. Alors oui, mais si vous voulez, les éléments narratifs qui viennent de la télévision ou du film, par exemple, ne viennent qu'insérer à l'intérieur d'un réseau de personnes, de situations, etc., qui n'ont rien à voir avec cette série. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des bouts qui sont insérés, qui servent en fait de cadre, mais pour parler d'autres choses avec des personnages de l'entourage familial, professionnel, scolaire, etc. Et donc, on voit bien que ce qui fait présence à l'intérieur du rêve, comme narration extérieure, c'est vraiment quelque chose qui est lié à des problèmes liés à une trajectoire à des expériences sociales particulières. Donc on arrive à comprendre ça quand on reconstruit la biographie sociologique des personnes et qu'on voit qu'effectivement, c'est pas d'ailleurs quelque chose de nouveau, puisque la sociologie de la réception où l'histoire de la réception des textes ou des images a montré que, en permanence, nous allons prendre dans les images, dans les textes, des choses qui font écho à nos expériences et qui nous retiennent d'une certaine façon. Donc ça n'est pas une surprise de voir que ces nouvelles narrations rentrent dans le rêve. En plus, elles ont comme caractéristique d'être visuelles. Et l'une des propriétés du rêve, c'est d'être visuel et d'avoir une contrainte visuelle. Voilà.
Alors, dans votre travail de décodage sociologique ou de sciences sociales, vous avez beaucoup recours à la notion d'analogie, Bernard Lahire, et vous vous inscrivez au fond dans une forme d'anthropologie pratique, d'anthropologie du sens pratique, pour reprendre le titre du livre de Pierre Bourdieu, qui est une forme de structuralisme, au fond, on peut le dire comme ça, non ?
Oui, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, la question de l'analogie, elle est centrale dans le structuralisme, ça c'est sûr, mais la question de l'analogie pratique, elle est plutôt à relier à un auteur comme Bourdieu, dans le sens pratique et ailleurs, mais au fond, c'est toute cette démarche dispositionnaliste, c'est-à-dire l'idée que nous sommes formés de dispositions parce que nous avons vécu un certain nombre d'expériences qui se sont cristallisées en nous. Enfin, toute cette démarche-là, scientifique, met au cœur du fonctionnement des individus des processus analogiques. C'est-à-dire qu'en permanence, nous vivons de nouvelles situations avec de nouvelles personnes, etc. Et en fait, il y a un rapprochement analogique entre ce que nous avons vécu jusque-là et ce que nous percevons. Et nous ne pouvons d'ailleurs comprendre les situations qu'en projetant des choses sur les nouvelles situations qui se présentent à nous. Donc, ce rapprochement analogique, il est crucial. Alors, par des bouts très différents, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, les neurosciences ou les sciences cognitives plus généralement, ont montré qu'effectivement, l'analogie est au cœur de la pensée humaine, mais pas seulement humaine, sans doute. Hein, pour avoir lu des travaux qui portent sur les animaux, ce sont des mécanismes qui sont des mécanismes propres aux vivants, et en tout cas un certain nombre d'animaux de type mammifères. Donc vous voyez, ce sont des choses qui nous dépassent très très largement.
Alors jusqu'à présent, mais c'est ma faute ou mon choix, on a plutôt insisté sur les récurrences, parce que c'est l'enjeu évidemment d'une recherche comme celle-là, et cette recherche donne le sentiment, alors que c'est pas du tout le cas, d'être peu incarné. En fait, le livre repose vraiment sur ces 8 rêveuses et rêveurs avec lesquels vous avez travaillé, Bernard Lahire. Peut-être qu'on va revenir avec Sophie Bruno sur cette incarnation, sur ces personnes qui ont accepté de vous confier leurs rêves. En tous les cas, je voulais vous donner l'occasion aussi de préciser que cet échantillon de 8 personnes, vous ne cherchez à aucun moment à en faire un échantillon représentatif. D'abord, il y a beaucoup de gens assez jeunes, plus jeunes que vous. Il y a 4 hommes, 4 femmes. Ça, il y a là une forme de symétrie recherchée. Mais à part ça, ça aurait été impossible sur un échantillon de toute façon aussi réduit.
Oui, oui. Et puis l'idée, c'est d'arriver à prouver que ça marche. Voilà. C'est parce que c'est déjà pas évident dans le domaine des sciences sociales de considérer que les rêves sont interprétables d'un point de vue sciences sociales. Donc, il a fallu faire cette démarche-là, et ça, c'est évidemment, que ce serait l'étape d'après que de pouvoir systématiser ça sur des échantillons plus grands, avec le problème qui se pose quand on a beaucoup de personnes enquêtées, c'est qu'on ne peut pas creuser des parcours comme j'ai pu le faire, parce que au bout de 60 heures ou de 40 heures ou même de 20 heures d'entretien, vous avez des informations qui sont très très importantes. Mais avec un peu d'argent en collectif et sur une longue période, on peut arriver à faire quelque chose de beaucoup plus représentatif.
Alors on va voir comment on peut donner la parole à des rêveuses et des rêveurs également avec Sophie Bruno, donc qui a réalisé ce film Rêver sous le capitalisme, qu'on peut revoir actuellement sur arte.tv. Mais c'est après un extrait de probablement la plus belle chanson écrite sur un rêve, dans ces moments où on se réveille tout juste et on peut être traversé par l'actualité telle qu'on entend à la radio avant de se rendormir. A Day in the Life.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
La part rêvée, c'est le titre du volume 2 de l'interprétation sociologique des rêves que publie Bernard Lahire aux éditions La Découverte, un livre dont on parle à la suite dans les idées pour cette première émission de l'année. On en parle également avec vous, Sophie Bruno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes la réalisatrice, entre autres choses, de Rêver sous le capitalisme, un film qui date d'il y a 3 ans, c'est ça?
Mais oui.
Que Arte a décidé de rediffuser, qu'on peut voir jusqu'à pratiquement la fin du mois de janvier, je crois, sur le site de la chaîne. Un film qui, au fond, pourrait s'inscrire dans ce mouvement dont parlait Bernard Lahire, de tentative de se saisir de ces formes d'expression que sont les rêves pour comprendre certains aspects de notre société. C'est ce que vous avez fait pour saisir le capitalisme, Sophie Bruno.
Oui, en fait, je pense que j'aurais pas pu faire ça comme premier film. J'y suis venue parce que j'ai pris conscience qu'il fallait trouver une autre forme de langage, une autre forme d'expression pour arriver à raconter toujours des choses qui semblent galvaudées, déjà entendues, et comment à nouveau revenir dessus, les raconter différemment et montrer à quel point elles nous envahissent et comment, comme le disait Bernard Lahire tout à l'heure, comment les rêves nous travaillent et travaillent les difficultés Donc c'est un film qui se concentre sur le monde du travail et sur comment effectivement nous sommes malmenés par le capitalisme libéral à travers des nouvelles formes d'organisation et des nouvelles pratiques managériales. Donc contrairement à lui, c'est aussi comment les récurrences à travers les rêveurs et les rêveuses concentrées sur ce monde du travail, donc c'était des récits de rêves de travail, c'était beaucoup plus intentionnel, se mettent dans une espèce de vision nocturne à raconter ce monde qui est le nôtre et que nous partageons à travers effectivement des récurrences liées à la peur, à la perte, à la mort, à l'intensification, qui reviennent de rêve en rêve, mais racontées à travers effectivement des récits improbables, étranges, et qui par ailleurs nous saute aux yeux parce que ce sont des images parlantes, ce sont des rêves manifestes où on fait clairement le lien avec le récit du rêve et le contexte qui l'a engendré, et ce sont les rêveurs et les rêveuses qui interprètent eux-mêmes après souvent avoir fait un travail thérapeutique ou un travail sur eux-mêmes, parce que c'était des gens en congé maladie, en burn-out, qui depuis plusieurs années étaient dans des formes de souffrance, donc s'étaient mis à distance et questionnaient ce qui leur était arrivé, donc avaient cette capacité aussi à pouvoir mettre des mots sur parfois des images étranges, mais sans doute avait pris conscience aussi de cette part rêvée dont parle magnifiquement Bernard Lahire dans son livre.
Bernard Lahire, vous l'avez vu ce film il y a un moment déjà, et d'ailleurs vous y faites plusieurs fois référence dans votre livre La part rêvée.
Oui, j'ai même fait un papier pour AOC sur le documentaire de Sophie Bruneau, parce que j'ai trouvé que le documentaire était formidable et que c'était une manière de reprendre, le titre a un sens particulier. Il y a un ouvrage qui est très connu qui s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich » de Charlotte Bérat. Et il y a une dimension politique dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit des rêves recueillis auprès de gens durant la montée du régime nazi, ou bien ce recueil de rêves durant une période où que ce soit dans les services publics ou dans le privé, le néo-management crée de la souffrance chez les gens. Il y a quelque chose de très très commun, et les rêves qu'on voit dans le documentaire sont tout à fait formidables de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien, pour le coup, pour répondre à Freud, qui peut pas nous entendre, mais enfin, pour parler à la psychanalyse, on peut dire que voilà, il y a ces dimensions-là qu'il ne faut pas nier. Alors moi, je pense que derrière tout ça, il y a aussi des souffrances beaucoup plus anciennes qui s'expriment, etc., et qui prennent une forme particulière dans les rêves. Mais il ne faut pas négliger le fait que la vie tout à fait actuelle des rêveurs ou des rêveuses, et notamment au travail, soit puissamment mobilisé dans les rêves.
Ce qui est impressionnant, Sophie Bruneau, dans le travail de Bernard Lahire, c'est qu'on voit qu'au fond, la manière dont les individus sont fabriqués en permanence par les institutions, et comment jouent les déterminismes. Bernard Lahire n'a pas peur du mot et il explique pourquoi dans son livre. Mais surtout, comment ces déterminismes se croisent. C'est-à-dire que quand vous avez essayé de faire parler ces rêveurs et ces rêveuses de capitalisme ou de conditions de travail, vous avez aussi parfois rencontré le rôle incroyablement important et qui revient sans cesse dans le livre de Bernard Lahire de l'école, Sophie Bruneau.
De l'école, enfin, c'est pas le premier cadre socialisé dont il parle, hein. Vous voulez peut-être préciser.
Non, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai été frappé par l'omniprésence de la socialisation scolaire. Alors peut-être c'est lié aussi à la nationalité française des rêveuses et des rêveurs. Peut-être dans d'autres pays le poids de l'école est moins considérable tout au long de la vie. Mais je trouve que c'est très très fort en fait dans ces expériences. Peut-être aussi ça concerne des gens relativement jeunes dans le livre de Bernard Lahire. Je ne sais pas si vous avez retrouvé les mêmes croisements entre les institutions du travail d'un côté. C'est les institutions plus anciennes, scolaires, de l'autre. Sans oublier la famille, évidemment. Mais...
Moi, Je dirais plus que, si vous voulez, le travail des intentions que j'ai fait en amont et les personnes qui m'ont répondu, parce que je crois que c'est la même chose pour le sociologue, mais la difficulté c'est d'approcher les rêves, hein, et du coup les rêveurs, on peut pas le faire en y allant dans un rapport direct, en fait, il faut effectivement construire dans un rapport au temps. Donc moi j'ai mis 3 ans pour obtenir une quinzaine de rêves, qui étaient des rêves très précis, qui concernaient le monde du travail. Donc plus on est intentionnel, plus la lorgnette elle est étroite, alors plus on voit loin, hein, comme dans un effet d'optique, mais en même temps plus c'est difficile de les obtenir. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est effectivement que les rêves de travail que j'avais étaient souvent liés au tertiaire et à la classe moyenne supérieure, alors c'est parfois employé, parfois c'est cadre supérieur, mais donc c'était des gens qui étaient atteints et qui étaient par ailleurs avec un bagage symbolique lié au capital scolaire qui était important, donc qui avait aussi peut-être cette capacité du coup de pouvoir analyser leurs rêves, parce que dans cette espèce d'extension du domaine de la recherche que propose Bernard Lahire, ce que je trouve formidable, hein, parce que tout d'un coup effectivement l'horizon s'est élargi à la fois dans la compréhension de nous-mêmes mais aussi de notre connaissance du monde dans nos modes de fonctionnement, mais aussi à la fois de comment effectivement cette dimension de l'espace socialisé on l'a incorporé en fait. Donc effectivement, une fois qu'on oriente davantage, comme moi j'ai pu le faire par rapport à ce travail, c'est comment dans une espèce de retour et de relation inversée, ces rêves peuvent être aussi le tremplin à révéler en fait ce monde social. Donc c'est en cela qu'ils sont intéressants, parce que après Freud, ce sont les surréalistes qui s'étaient intéressés aux rêves de manière sérieuse, avec leur capacité de dire la société en fait. Donc j'étais impressionnée dans le travail de Bernard Lahire par le rapport au temps. On dit souvent que le cinéma est un art du temps, hein. Il y a beaucoup de liens d'ailleurs entre le cinéma et le rêve, on pourrait peut-être y revenir, mais je trouve que dans cet art du temps, là, le sociologue, pour le coup, a fait œuvre étonnante, parce que il revient dans son premier ouvrage sur 100 ans de travaux, hein, avec une synthèse incroyable, parce que il y a un décloisonnement dans le rapport des savoirs, c'est-à-dire que on va chercher à la fois dans la neurolinguistique, dans l'anthropologie, dans la psychologie. Donc il y a ces modèles théoriques, et puis le deuxième volume fait place à l'empirie, et effectivement on voit le rapport au temps, 5 ans de travail à suivre une quinzaine de rêveurs dont on en garde 8, avec des heures d'entretien, un protocole qui est mis en place, des heures de lecture, d'interprétation. C'est un travail étonnant dans la temporalité en fait dans laquelle elle s'inscrit, parce que c'est assez unique dans ce sens-là en fait. Pour moi c'est un travail dans le temps que seul le temps permet.
Bernard Lahire, vous concluez le livre pour l'enraciner aussi dans le temps, pour le coup le temps présent, avec des rêves d'enfants et y compris d'une petite fille très très jeune de 4 ans, qui est aussi un rêve du confinement. Alors la question se pose, est-ce que ça a été une période particulière pour rêver? Voilà peut-être un nouveau chantier de recherche.
En fait, il n'y a pas de période particulière pour rêver, mais je pense que des gens qui n'avaient plus à aller au travail le matin nécessairement parce qu'ils pouvaient être en télétravail, qui pouvaient organiser leur journée différemment, sont forcément à un moment donné se sont posé la question des rêves qu'ils font, des rêves qu'ils se rappellent, parce qu'ils vont pas tout de suite au travail le matin. Une des conditions pour se rappeler de ces rêves, c'est aussi de ne pas être happé immédiatement par une journée un peu difficile. Et du coup, dans toute cette période, effectivement, il y a eu, je pense, un intérêt à noter ces rêves. Et moi, j'ai fait comme d'autres d'ailleurs, d'autres collègues dans d'autres disciplines, j'ai fait un appel à rêves durant le confinement. Et j'en ai reçu à peu près 740. Et j'ai effectivement tiré juste un cas, parce que je le trouvais assez intéressant, d'une petite fille qui montre une lucidité assez incroyable, en fait, par rapport à la situation, puisque en deux mots, c'est un rêve qui dit l'impuissance des adultes. Elle a vu ses deux parents atteints sans doute du Covid, très affaiblis, et elle rêve de super-héros qui sont empêchés, qui sont sans pouvoir, qui ont perdu leur pouvoir. Donc on comprend au bout d'un moment que ces super-héros, qui sont liés tout à fait chronologiquement, ce serait un peu long à raconter, mais soit au père, soit à la mère, parfois à une grand-mère, les super-héros sont empêchés, ils n'ont plus de super-pouvoir, donc elle agit. Et donc dans un de ces deux rêves, elle agit, elle essaye de détruire le virus. Voilà, c'est tout à fait formidable, je trouve, de voir à quel point une petite fille de 4 ans a cette lucidité-là.
Et de voir aussi comment ce rêve, même à 4 ans, est nourri de ces fictions
absolument,
auquel elle est exposée et qu'elle maîtrise suffisamment pour se les réapproprier au fond dans ce moment de création qui est un rêve. Merci beaucoup Bernard Lahire. Je rappelle le titre de votre livre, La part rêvée. Alors c'est le tome 2 de l'interprétation sociologique des rêves. Le premier tome paraît simultanément en édition de poche, les deux éditions La Découverte. Vous trouvez la référence ou les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées. Vous trouverez aussi la référence du film, de votre film, Sophie Bruno, Rêver sous le capitalisme, qu'on peut voir en ce moment sur le site d'Arte, arte.tv. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Marie Dalquier à la technique, Nicolas Delmas à la réalisation, David Travailleur.